forcément qu'il y aura des priorités, mais ça veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
RMC.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Gilbert Brébois.
Bonsoir à tous, c'est l'after jusqu'à minuit, comme tous les soirs, en direct, après cette soirée foot et rugby. Ce soir, l'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Évidemment, on vous attend au 32-16, on vous attend sur Direct Studio, on vous attend sur le hashtag RMC Live toute la soirée, avec Daniel Riolo qui est là. Salut Daniel.
Salut les amis.
Avec Jonathan Bacardi qui est là. Salut Jonathan. Et avec Kevin Diaz, qui est resté avec nous, notre spécialiste du foot néerlandais. Mais bon, il peut parler d'autres trucs, hein. Mais bon, c'est un duo que c'est...
Ouais, mais à chaque fois, tu dis spécialiste du machin, donc tu cantonnes un petit peu dans
ce... Non, mais c'est pour ça que je dis aussi qu'il peut parler d'autres trucs.
Bon, ouais, maintenant, on dira...
Spécialiste du foot, tout quoi.
On va dire Kevin Diaz, spécialiste du foot.
Ancien joueur dans le championnat hollandais aussi.
Kevin Diaz, spécialiste du foot, ça fait un peu... Je me la pète, quand même. À ce moment-là, je dis Kevin Diaz, tu vois.
Voilà,
spécialiste du football. Du football.
Du football.
T'as joué combien de temps là-bas déjà?
Cette saison.
Et fils caché de Ramon Diaz.
Et sosie officiel de Luis Rego.
Aussi. Voilà.
Ah, tu sais qu'on a trouvé un sosie à Jonathan?
Oui.
Ah, fantastique.
un Guy Bolt.
Ah non, mais un génie. Un patineur japonais. Ah. Le sosie parfait de Jonathan.
Il est connu, ce patineur?
Ah oui.
C'est le racisme ordinaire. Tous les Chinois se ressemblent et tout.
Non, mais tout de suite, tu tombes là-dedans. Bah non. Non, tu ressembles pas à Kim Jong-un, par exemple. Tu vois? Mais là, ce japonais...
Ça aurait été plus flatteur.
Bon, tiens, David Lorteux est également parmi nous, figurez-vous, en direct de Dresde. Salut David.
Allô Fred, salut Gilbert, salut messieurs, salut à tous.
Salut David.
Alors, je vais vous faire un petit, comment dirais-je, un petit panorama résultat, parce qu'il y en a plein à savoir avant de démarrer l'after. Bon, on va parler tout à l'heure des espoirs, les Français hein, qui ont perdu ce soir dans un match amical face au Danemark 1-0. C'est important, pourquoi? Parce que pour la première fois depuis une éternité, la France va jouer un euro. Je rappelle que la France, la dernière fois qu'elle a gagné l'euro espoir, c'était en 88. Hein,
elle est favorite.
Avec Despérou et Barabé. Donc,
il fait exprès de citer ceux qui étaient moins connus de l'époque.
Bah oui.
Attends, il y avait que des vedettes dans cette
équipe. Il y avait Despirou et Barabé, pardon.
C'est vraiment annoncé comme la grosse équipe en plus, l'équipe de France.
Il va falloir faire mieux que ce soir quand même.
Ouais, ça c'est clair, mais c'est, tu vois, ça fait vraiment partie des épouvantails du tournoi.
On va en parler tout à l'heure. On va aussi parler évidemment des qualifs de l'Euro 2020. Donc l'Allemagne qui gagne aux Pays-Bas 3-2 dans un super match ce soir. D'autres résultats importants aujourd'hui. La Croatie, vice-championne du monde, qui perd en Hongrie. Pourtant la Hongrie, bon, c'est pas un cadeau européen. 2-1 pour les Hongrois face aux Croates. La Pologne qui a galéré pour battre la toute petite Lettonie, 2-0 dans le dernier quart d'heure. Qu'est-ce que j'ai encore à vous signaler? La Belgique qui gagne à Chypre 2-0, début d'Hazard est battu. Alors ils ont marqué dans le premier quart d'heure les Belges. Puis après,
t'as les buteurs de la Pologne?
Ils ont plié. Hein, ah, tu veux les buteurs de la Pologne?
Piontek encore qui a marqué?
Alors je vais te dire ça tout de suite. La Pologne face à la Lettonie, c'est Lewandowski et Glick. Okay. Ah bah Glick, tiens. Voilà Glick qui remarque. Et puis je vous signale aussi que la Russie a gagné au Kazakhstan 4-0. Évidemment. Et puis tiens, un petit match. Hein. Vous savez que dans la zone CONCACAF, cher à Daniel, il y a aussi une Ligue des Nations. Eh oui, il y a aussi une Ligue des Nations là-bas.
Ah, en revanche, j'ai pas du tout suivi. On jouait pas, nous. Hein,
non, tu jouais pas avec ton équipe de Saint-Vincent et les Grenadines. Mais il y avait un choc entre la Guadeloupe et la Martinique.
Ah,
les deux départements d'outre-mer. Et c'est la Martinique qui a gagné 1-0.
Et but de Wesley Jobello, ancien joueur de l'OM. Tenu en haute estime par Marcelo Bielsa.
Et ouais. J'ai une petite anecdote.
Oh, il est là.
Bien joué, Jonathan. J'ai une petite anecdote à ce propos, Gilbert. J'ai envoyé j'ai répondu à un petit tweet de Piquion, de Fred Piquion, qui travaille avec nous, oui, chez RMC, et qui me dit, je lui dis, j'ai pas encore arrêté ma carrière, et qui me dit, si t'as un parent martiniquais, pourquoi pas? Mais il savait pas que mon père est martiniquais, mais moi je savais pas non plus que je pouvais jouer pour la Martinique. Donc,
énorme.
Il y a une petite possibilité que je finisse ma carrière par une Gold Cup. Je sais pas.
Non, mais attends, c'est Fred qui fait la sélection là?
Non, il est coordinateur sportif.
Il est coordinateur sportif. Donc si l'entraîneur,
ouais, donc c'est lui, quoi.
Si l'entraîneur veut venir me voir à Saint-Maur, je candidate.
Ah, mais c'est bien.
Oui, pourquoi pas.
Ce serait génial.
Énorme.
Il ne le savait pas. C'est vrai que
est-ce qu'il peut venir te superviser à l'Urban mercredi?
Non, l'Urban, je peux pas. Il faudrait qu'il vienne dans deux semaines contre Agno à domicile, Saint-Maur, Lusitanos, Agno en National 2.
Alors, faut savoir que Kevin a joué ce week-end contre Lille. la réserve de Lille avec Saint-Maur. Et j'ai un ami du LOSC qui m'a envoyé un message qui m'a dit ce mec ne fait que râler après l'arbitre.
Non,
pas que râler, mais c'est vrai qu'hier j'ai pas mal râlé.
Non. Qu'est-ce qui s'est passé?
On a perdu.
Ah ouais, c'est pour ça.
Moi, tu m'as déconcentré depuis l'histoire des espoirs. Parce que je pense que la fameuse finale contre la Grèce, c'est pas Bruno Martini le gardien.
Oui, mais le deuxième gardien, c'est Barabé.
Ah d'accord, ok. Donc tu m'as embrouillé l'esprit en plus. Pendant ce temps-là, moi, j'étais en train de me tracasser la tête à essayer de retrouver et tout. En plus, t'as cité le deuxième gardien. Non seulement t'as pas cité toutes les stars qu'il y avait dans cette équipe.
Bon, il y avait aussi Jean-Luc Buisine et Bertrand Roseau. Hein. Ouais.
Mais quand même, dans cette équipe, tu auras Roche en défense, tu auras Guérin, Sauzé au milieu, donc Cantona devant.
T'as Blanc et Roche en défense.
Ouais. Bon, on donnera peut-être tout à l'heure la compo des espoirs, tu verras que c'est quand même.
Et devant, t'avais Stéphane Paille, Canto, et en remplaçant éventuel, t'avais Zitelli. Ouais.
Et au milieu avec Eric Lada. Guérin, Sauzé.
Guérin. Despérou. Il y avait aussi Galtier. Christophe Galtier.
Ah ouais.
Qui au début de sa carrière était là.
Et à droite et à gauche, il nous manque juste les latéraux.
Alors écoute, parmi les défenseurs, peut-être. Alors Buisine, je t'avoue que je sais pas s'il était défenseur central ou latéral. Roseau, je sais pas non plus.
Non.
Voilà. Peut-être Dogon. Mais Dogon était plus de 6 ou défenseur central. Ouais. Bon, faudrait qu'on retrouve la compo exacte. Là, j'ai la liste, j'ai le groupe. Hein, voilà. Alors, je voulais également, avant qu'on parle de Pays-Bas-Allemagne, vous donner les qualifiés pour la CAN, puisque se jouait ce week-end les derniers matchs, il y avait plein de suspense dans plein de groupes. Alors, c'est vrai que la CAN passe à 24, donc ce sera entre fin juin et fin juillet en Égypte. Et du coup, il y a pas mal de petites surprises. Alors, Claude Leroy n'y sera pas, pour une fois. Il a raté sa 10e CAN en tant qu'entraîneur, puisqu'il est sélectionneur du Togo. Et c'est le Bénin qui s'est qualifié aujourd'hui. Le Bénin de Stéphane Sessegnon, messieurs, qui ne joue pas ce match, mais qui joue toujours. Il sera peut-être à la CAN, Stéphane Sessegnon. Le Bénin de Jimmy Adjoviboko, qui joue plus non plus, mais qui était présent au match. Donc le Bénin est qualifié. Alors il y a tous les gros, hein, évidemment. Il y a pas de grosses équipes qui manquent.
Peut-être le Cameroun, on verra.
Le Cameroun y est. Parce qu'il y a un recours. Dans les juridictions, je sais plus laquelle, parce qu'ils ont fait plein de démarches, les Comoriens. Donc voilà, alors juste pour les surprises, il y a Madagascar qui est là, il y a le Burundi qui s'est qualifié ce week-end. Et donc je l'ai dit, il y a la Guinée-Bissau qui est quand même pas une grosse nation africaine. La Mauritanie pour sa première qualif à la CAN, exactement. Entraîné par Corentin Martins, tu as totalement raison. La RDC qui s'est qualifiée grâce à un but de Bakambu et qui a éliminé le Liberia de George Weah cet après-midi. Le Kenya. Kenya, en général, ils sont pas trop là dans les phases finales. Donc, voilà. Et la Tanzanie, qui 30 ans plus tard est de retour également, à la CAN. Voilà. Vous savez tout. La CAN, ce sera sur RMC entre fin juin et fin juillet. Alors que Daniel fait ses recherches sur le 88.
Putain, j'arrive pas à trouver. De l'athéro, bordel. C'est nul.
Mon petit Lorto, c'est la renaissance de l'Allemagne ce soir, et surtout Joachim Löw là, il boit du petit lait là, il s'est fait allumer par tous les Munichois de la terre, et là les faits lui donnent raison.
Bah alors, il y a évidemment une petite euphorie, une douce euphorie, hein, parce que ça faisait depuis 2012 que ces Allemands-là n'avaient pas gagné contre les Pays-Bas, et on en a parlé dans nos émissions aussi cet après-midi, il y a diverses émissions sur RMC, on sait qu'il y a une rivalité légendaire, d'ailleurs ce soir. Ce soir, j'ai pas vu Ronald Koeman, messieurs, s'essuyer le postérieur avec le maillot de l'Allemagne. Contrairement à ce qui s'était passé il y a quelques années de ça.
Non, attends, il a fait ça?
Dans les fameux face-à-face.
Ah, moi, je me souviens du Mollard, le célèbre Mollard de l'époque.
Mais tu sais, on a eu pire que le crachat, on en a eu.
Et Koeman s'est essuyé.
C'était à l'Euro 88, ça, non?
Oui, il avait mimé, il avait récupéré un maillot d'un adversaire et il avait mimé de s'essuyer les fesses avec le maillot allemand. En l'occurrence, c'est la grande élégance des duels entre ces deux pays. Non, donc il y a une douce euphorie ce soir, évidemment, parce que cette victoire-là, elle est. Je le disais, c'est depuis 2012 que l'Allemagne n'avait pas battu les Pays-Bas. Mais alors, en revanche, les confrères allemands ont toutes les peines du monde à savoir comment se positionner entre une soirée magique. Et une soirée où on a tremblé. Parce que clairement, match complètement fou. Première période en faveur de l'Allemagne, le 2-0. Deuxième période complètement en faveur des Pays-Bas, le 2-2. Et puis un but venu un peu de nulle part, il faut bien le dire, de Nico Schulz, qui est gaucher exclusif, qui marque du droit d'un tir un peu improbable. Voilà, alors effectivement,
d'un tir où la plupart des mecs auraient certainement contrôlé parce qu'il avait le temps pour ajuster le gardien. Lui, comme tu dis, en presque en tombant un peu en arrière, il arrive à mettre un plat du pied droit pour faire but. Oui.
Mais tu as raison, Gilbert. Le sélectionneur ce soir est tout à fait, enfin, la main en or, comme on dit en Allemagne, c'est-à-dire qu'il a fait les bons choix. Il a fait un 3-5-2. Il a mis un 3-5-2 en place avec Sané, Gnabry devant. Il n'y avait pas eu de 3-5-2 de cette équipe depuis un an et demi. Il fait entrer Marco Reus à la fin. Il peut pas le faire jouer avant parce qu'il a des douleurs à la cuisse. Bon, il fait entrer Marco Reus à 3 minutes de la fin. Reus est décisif sur l'action du but. Gundogan aussi, qui est rentré en deuxième période, qui était le premier remplacement pour l'Allemagne à la place de Goretzka, pareil, est décisif aussi à la fin. Donc ce soir, c'est assez chanceux pour l'Allemagne, mais c'est forcément une victoire qui va peser lourd pour la suite et qui éclaircit un peu l'avenir du sélectionneur, il faut bien le dire.
Bah, de toute façon, chanceux, pas chanceux, franchement, on a vu un super match entre deux belles sélections. S'ils perdent le match sur la fin, on se dit, bon, bah, les Pays-Bas le méritent certainement. Maintenant, je trouve que des deux côtés, en talent, c'est équivalent. Bah, il y a peut-être même un petit peu plus de bons joueurs du côté des Allemands, on pourrait dire. Le rythme du match, les occasions, le talent qu'il y a dans les deux équipes, moi, dès le début, il m'a semblé que c'était un match qui pouvait basculer assez rapidement. Parce que dans la première période, il y a 2-0 pour l'Allemagne, mais les Pays-Bas, ils ratent des trucs de dingue. Ouais. Babel rate deux fois face à Neuer. D'ailleurs, Babel est ma seule interrogation du côté des Pays-Bas.
Il est très bon depuis que Coman est après la sélection.
Mais
il a mis combien de buts? Les deux.
Mais Babel, il est un peu de l'ancien monde.
J'aimerais que Babel passe son tour.
32 ans.
C'est ça.
Bravo.
Babel, il est un peu d'une ancienne génération, alors qu'ils sont un peu renouveler, quoi.
Après, un peu à l'image de ce qui se fait à l'Ajax, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Il faut quand même quelques anciens pour encadrer. Babel, c'est un genre d'expérience. C'est quelqu'un qui a toujours une bonne mentalité.
Il a d'expérience. Et puis, franchement,
il a beaucoup de clubs de première ligue qui le veulent,
Ouais, mais en plus, franchement, Kevin, tu vas confirmer ou pas, mais je pense qu'il a jamais vraiment déçu depuis que Mané est arrivé, quoi. Il est vraiment sur lui. Il a été performant à chaque fois.
Il n'y a pas énormément de joueurs, dans ce profil. Vraiment qui peut jouer vraiment deuxième attaquant. Il y a beaucoup d'ailiers, hein, on les connaît, les ailiers néerlandais, mais bon, moi quand même j'ai envie de dire que pour ceux qui ont vu le match ce soir entre les Pays-Bas et l'Allemagne, on a eu un parfait exemple de ce qu'est le football total. C'est-à-dire que les Pays-Bas, ils ont perdu, ils n'ont pas gagné, mais ils auraient mérité de gagner. Ils ont attaqué, ils ont donné du plaisir à leurs supporters, et ça c'est le plus important. Demain il y aura personne qui dira on aurait dû rester derrière en bloc et jouer peut-être.
Après moi ce que je trouve franchement sur le match là, le match était plaisant à voir parce qu'il y avait des buts, il y avait du suspense, des rebondissements.
Il n'y a pas un René Von Girard ce
match il reflète un peu l'état des deux sélections. C'est le match était très sympa, hein, mais c'est deux sélections qui sont en pleine reconstruction, et qui sont pas encore des sélections mûres avec des équipes mûres, des joueurs mûrs, et qui sont en train de se roder. Les Pays-Bas, ils ont quand même loupé les deux dernières compétitions internationales. C'est une équipe qui est en train de se renouveler. On voit les lignes directrices avec les jeunes là qu'on a pu découvrir depuis deux trois ans avec De Ligt, De Jong et tout. Mais l'Allemagne aussi, c'est pareil, et c'est pas des deux équipes qui sont encore matures et qui seront des prétendantes dans deux ans.
Là, je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est pas des équipes matures, mais
à l'euro l'une et l'autre.
Là où je peux te rejoindre, c'est qu'en fait quand tu regardes le panorama, et je pense que ça serait intéressant qu'on en parle un jour, c'est quand on regarde le panorama des équipes européennes, toutes les grosses nations sont en pleine reconstruction. Exactement. Par la France.
Oui. C'est pour ça qu'en fait à l'arrivée.
Kevin a été coupé, les gars, du coup.
Non, mais je rebondis à ce que dit Jonathan. Moi, je pense que aujourd'hui, honnêtement, j'ai été agréablement surpris par les Pays-Bas. Parce que comme disait Daniel, ils ont quand même raté de grosses opportunités en première mi-temps, des face-à-face quasiment, avec de beaux arrêts de Neuer certes. D'ailleurs, on pourra en parler avec David qui disait que Neuer était un peu contesté, notamment par Ter Stegen, mais ce soir il a bien répondu présent.
Ouais.
Mais les Pays-Bas, ils ont été exceptionnels, parce qu'ils perdaient 2-0 à domicile devant leur public contre le plus grand rival, et ils reviennent à 2-2, ils méritent même largement de marquer peut-être un troisième but, et le résultat logique aurait peut-être été un 3-3, et ça aurait, je pense, contenté tout le monde.
Je pense que c'est des équipes qui, même dans deux ans avec de la maturité, je suis pas sûr que ça devienne des équipes capables de défendre un avantage.
Voilà. Ouais.
À moins, tu vois, que parce que les circonstances le demandent, Il faut garder le score, on se met un peu tous derrière, mais sans que ce soit, tu vois, hyper travaillé dans le schéma défensif. Genre, on s'y met un peu au courage, mais ça sera pas dans la nature de ces deux équipes-là qui jouent. Dans deux ans, aucun problème si elles vont à l'Euro. Je les mets dans les équipes capables de faire quelque chose parce que je crois que ce sera très ouvert.
Bah regarde, oui. Regarde la France, toutes les autres équipes sont européennes.
Regarde la dernière Coupe du Monde. Tu t'attends pas à ce que la France aille au bout. Tu sais non, pas trop clair, comment ouais. ils sont au début. Ils y vont avec leur style et ils garderont ce style-là. Mais l'Allemagne peut très bien dans un match de compétition, enfin à l'Euro. L'Allemagne peut battre la France, les Pays-Bas peuvent battre la France, la France peut battre l'Allemagne, la France peut battre les Pays-Bas, la Belgique pourra battre n'importe quelle équipe. En fait, tout le monde pourra battre à peu près
bonne
tout le monde.
Bonne chance au Paris. Franchement, si on s'arrête à l'instant T, la France et la Belgique sont pour l'instant au-dessus des autres équipes européennes. La France et la Belgique au-dessus parce que la Belgique, dans le style de jeu, qui ont quand même un jeu assez plaisant, ça fait un petit moment qu'ils travaillent. Les autres grosses nations, à l'instar de l'Italie, de l'Espagne, des Pays-Bas et de l'Allemagne, veulent mettre en place un projet de jeu qui est ambitieux. Mais c'est pas comme le projet de jeu qu'on a en équipe de France, qui est somme toute assez rudimentaire et qui va prendre peu de temps à mettre en place.
Je pense que
peut venir sur une compétition.
La Coupe du Monde a montré la voie et je pense que ça continuera. Ça va être méga ouvert, peut-être même plus que la Coupe du Monde, comme c'est serré, parce que bien c'est sûr. Un euro et donc t'élimines un paquet d'équipes qui sont objectivement inférieures. T'as cité l'Angleterre, Kevin, c'est vrai, l'Espagne. L'Italie peut-être un peu en dessous, mais c'est si en deux ans elle progresse, il y a quand même quelques joueurs qui commencent à être pas mal.
C'est très encourageant hier le match.
Ouais, hein. Ouais.
Il y a toujours une surprise.
Franchement, il va y avoir beaucoup d'équipes.
Le Portugal
sera toujours là. Il y a des bons joueurs à peu près dans toutes les équipes. C'est plutôt prometteur, moi, pour ce qui sera de la compète. C'est ce côté ouvert avec justement, à part la France qui a une tactique qui est très rodée défensivement, mais tu peux pas savoir s'ils auront la même défense, si les mecs joueront tout le temps tous en club. Je pense que ça va être très... En plus, la plupart des équipes jouent tout un football ouvert.
Oui, c'est clair. Ouais.
On a Moustapha qui est supporter de l'Allemagne au 32-16. Bonsoir.
Bonsoir, messieurs.
Salut, Moustapha.
Surpris ?
Agréablement. Après, comme dit, c'était aussi en face une équipe jeune. Mais c'est vrai que je m'attendais à ce qu'avec ce qui s'est passé pour les exclus, comme je les appelais, qui étaient Boateng, Müller, Hummels... compris pour les deux autres, mais Hummels, j'ai un peu moins compris pourquoi il n'était pas appelé. Mais bon,
est-ce que tu veux dire que, comme on dit dans le milieu du football, Joachim Löw a fermé des bouches? Là, cette expression insupportable.
Je pense que pour les Allemands, fermer des bouches, ce serait plutôt que la compétition suivante soit assez réussie avec ces jeunes-là, c'est-à-dire qu'ils fassent au moins demi-finale ou quelque chose.
Les Allemands,
pour battre
plus,
les Pays-Bas, qui est à peu près à leur niveau.
C'est quoi l'objectif de l'Allemagne, là, sur le moyen terme? C'est tout de suite l'Euro ou c'est la Coupe du Monde, David?
Alors, ça termine d'abord.
En fait, il y a une schizophrénie parce que le président...
C'était Moustapha, il était en train de parler là. Et puis je l'attends, il coupe pour poser une question à David.
C'est vrai.
Ah bon. Non, sans déconner.
c'est pas grave, il peut finir, après je peux reprendre.
Non, vas-y, Moustapha.
Sur l'objectif, messieurs, il y a la présidence de la fédération qui a fixé à Joachim Löw l'obligation de faire un bon euro. Alors vous comprendrez ce que vous voudrez, c'est ce qui a été dit. Okay. Et la schizophrénie, c'est que Löw, lui, je l'ai dit, et ça t'a fait un peu tiquer, Gilbert, il y a quelques jours, l'objectif de Löw, c'est la réussite de l'Euro 2024 en Allemagne. Donc, évidemment, il va faire démarrer des joueurs.
Donc le mec, il est sûr d'être encore là en 2024, lui.
Non, bien sûr que non. Mais simplement, étant donné que ça a été une telle réussite sociale en 2006, la Coupe du Monde en Allemagne, on veut absolument répéter cette réussite-là. J'insiste d'ores et déjà là-dessus. On peut prendre date dès aujourd'hui.
En 2006,
on veut réussir un super tournoi.
Moi, je trouve que c'est une super phrase, faire un bon euro.
Ouais.
Paradoxalement, ça peut faire penser à « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Je trouve au contraire que quand Le Graët dit « il faut faire demi-finale », ça c'est stupide, à mon sens. Parce que faire demi,
Daniel, tu joues sur les mots. Faire un bon euro pour l'Allemagne, c'est pas se faire éliminer en quart.
Oui, alors justement, c'est là que tu m'as pas laissé.
Donc c'est aller
ça dépend du quart.
Excuse-moi, je suis désolé. L'Italie, quand ils font leur euro avec Conte, ils sont éliminés en quart. C'est un bon euro parce que ce que tu as proposé était très intéressant parce que tu vas en demi en battant personne et en tombant dans une petite demi-finale. Est-ce que tu auras fait un bon euro? En revanche, si tu vas en quart, tu vas en demi, mais que quand ils perdent parce qu'ils tombent sur plus fort ou les circonstances du match font que tu perds au péno ou tu perds parce que, je sais pas moi, dans le match t'as eu un peu moins de réussite que l'autre, mais qu'avant tout ce que t'as proposé est intéressant au niveau du foot et de la Coupe du Monde 2006 pour les Allemands, c'est un bon mondial. Et pourtant, Dieu sait que les Allemands aiment pas trop rigoler avec le résultat et qu'eux ils sont bons quand ils gagnent. Mais et David peut en être témoin, ça avait été jugé un bon mondial, même s'ils perdent en demi contre l'Italie, en plus à la maison, à Dortmund, dans une grosse ambiance. Mais il n'empêche que le plaisir qu'avait eu tout le public allemand suivre sa sélection, la fête populaire, la réussite de la compétition, avait donné lieu à ce commentaire. C'est un bon mondial. Donc moi, je comprends. Moi, ça rejoint en tout cas mon idée du football, plus que il faut faire demi-finale ou il faut faire. Pour moi, ça en revanche, ça veut rien dire. Ça, pour moi, ça veut rien dire.
Moi, j'ai une question pour notre auditeur et David. Je sais pas s'il se rappelle. Donc il y a un peu plus de 6 mois, le dernier match entre ces deux équipes à l'Arena.
Oui.
C'est totalement l'inverse. L'Allemagne qui domine tout le match, qui perd 3-0 sur 3 contre
méga sévère. Sévère.
Et aujourd'hui, c'est encore une fois l'inverse. Voilà pourquoi on adore ce sport et le football est exceptionnel. C'est qu'aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. C'est l'Allemagne qui gagne 3-2, clairement contre le cours du jeu, en tout cas sur la dernière heure de jeu. Et voilà pourquoi c'est très très difficile de l'analyser. Aujourd'hui, Joachim Löw a fait plein de changements, mais il aurait pu aussi très bien gagner il y a 8 mois avec les anciens qui étaient encore titulaires à cette époque.
Moustapha, un truc à rajouter ?
Oui, c'est clair. Bah après voilà, pour revenir au match, non, le match je vais pas dire agréablement surpris, c'était un match agréable. Après, je pense pas, sans vouloir manquer de respect aux Pays-Bas, je pense que c'est comme l'Allemagne, ils sont en reconstruction, il y a des jeunes très talentueux, enfin je pense que Frankie de Jong, tout le monde est d'accord sur son avenir ainsi que De Ligt. Et je pense que voilà, c'était un bon test pour cette sélection là, mais après est-ce que imaginez que l'Allemagne peut taper une équipe comme la France, par exemple, une équipe comme la Belgique, qui sont dans un processus un peu plus avancé actuellement. C'est toute la question. Mais voilà, les Allemands, comme vous l'avez dit, ils voient un peu sur le long terme, plus que sur le court terme actuellement. Je pense qu'ils ne voient pas du tout soulever l'Euro actuel, ni la Coupe du Monde 2022. Mais ils essayent d'amener ces joueurs à terme. Mais bon, je sais pas, en fait... Niarbi et Sané aujourd'hui ont marqué, ont été tueurs, mais des fois en fait je trouve qu'ils sont tous très irréguliers en fait. Comme il s'est passé dans cette mi-temps, c'est-à-dire qu'il y a une première mi-temps qui a été très bonne, même si je trouve que les Pays-Bas n'ont pas de démérité. C'est juste que les Allemands étaient plus tueurs dans les occasions, mais ensuite il y a eu un trou noir, je trouve, en seconde période qui a été assez brutal.
L'adversaire est bon. Mais aussi, hein.
Gilbert, il faudra quand même parler justement du match de Memphis.
Ah bah j'allais y venir.
Qui pour moi a été.
Je veux juste remercier Moustapha. Moustapha, merci en tout cas.
Merci
à bientôt.
Ciao Moustapha.
Oui, alors De Paille. On en parle beaucoup là sur le hashtag RMC Live. Les supporters lyonnais qui ont vu le match se disent bon, très bien.
Il est vraiment meilleur qu'avec Lyon.
Bah il a mis 8 buts en avec comme sous commun, c'est quoi.
Pendant une seconde, j'ai cru, je me suis demandé si Daniel était sérieux. Mais honnêtement, aujourd'hui, Gilbert, moi c'est pas pour en faire trop.
C'est 8 buts là.
Je suis pas un fan inconditionnel de De Paille. Je l'ai vu débuter très jeune au PSV. Je pensais que c'était beaucoup trop tôt pour lui d'aller à Manchester, etc., etc. Mais aujourd'hui, le joueur que j'ai vu ce soir, les gestes techniques, la passe toujours au bon moment, toujours au bon endroit.
Le travail un peu. Je trouvais
travail
qu'il avait le visage, il transpirait.
Ouais, et puis,
avec Lyon, je le vois pas toujours transpirer.
Non, mais vraiment, on sent un joueur investi. Alors, on a bien compris qu'à Lyon, il arrive peut-être en bout de course et il a envie d'autre chose. Mais quand même, on a vraiment l'impression d'avoir deux joueurs différents. C'est peut-être aussi de sa faute, sûrement, mais quand même, il est quand même mis par dans des dispositions par Koeman et avec ce maillot. Il joue pas avec le même poste.
Voilà, c'est
franchement,
ça.
Franchement,
non, ça compte. Quand même.
Vraiment, je crois pas que ce soit qu'une affaire de poste.
Non, c'est aussi une affaire de trouver meilleur quand il est dans l'axe de toute manière.
Non, c'est pas qu'une affaire.
C'est pas un joueur aujourd'hui, il a joué partout, à droite, à gauche.
C'est une affaire de volonté, c'est une affaire calme.
Ça joue aussi.
Au vu de toutes les déclats qui sont arrivés à intervalles assez réguliers, genre, je veux partir, genre, je veux un plus grand club, genre, je veux ceci, genre, je suis puni un jour par Genesio, genre, je reviens, genre, je suis repuni.
Ça compte.
Genre,
bah, évidemment. Mais c'est les deux. Moi, je pense aussi le poste aussi compte. Mais non, c'est les deux.
Pour moi, c'est un élément qui vient après. Le premier élément, c'est lui déjà, c'est la volonté, c'est je vais avec les Pays-Bas. En plus, contexte, comme ça va pas bien dans mon club et que j'ai des problèmes, que ceci, que cela, eh ben, quand je vais avec les Pays-Bas, je vais cartonner parce que d'abord, c'est mon pays, je suis avec mes potes, machin, et c'est l'occasion de me montrer, surtout dans une affiche pareille, parce que ouais, je disais l'autre soir, dans les matchs de qualif de l'Euro, on va tout le temps se faire chier. Bah franchement, je savais même pas que je savais qu'Allemagne et Pays-Bas machin, mais qu'on pouvait avoir un match de tel niveau dans les qualifs, parce qu'on a du bol que deux grosses équipes soient dans la même poule. Je pensais même pas que c'était
possible. Parce que l'Allemagne n'était pas tête de série.
Voilà, bref, parenthèse refermée. Il lui restait combien d'occasions pour se montrer, lui qui a envie de changer de club, pour attirer le regard d'un club anglais ou d'un club de l'envergure qu'il estime jamais.
Il a assuré, alors, en l'occurrence.
Donc, tout ça, c'est
Est-ce qu'il a loupé un match depuis que Comment a pris les Pays-Bas?
Non, pas vraiment, mais
il a mis combien? 7-8 buts à chaque fois?
il a mis beaucoup de buts. Moi, je comprends très bien ce que dit Daniel dans le sens où il a sa part de responsabilité. C'est sûr. Personne n'en doute. Maintenant, il y a le poste, comme dit Jonathan également. Mais il y a également, parlais avec Lionel dans l'émission précédente pendant le match, et j'étais d'accord avec Lionel sur le fond, qui disait qu'un joueur doit s'adapter à une institution, pas l'inverse.
Bah oui,
mais aujourd'hui, d'accord,
Lionel,
d'accord. Mais aujourd'hui, à partir du moment où Jean-Michel Aulas et l'institution OL a décidé d'investir sur Memphis Depay, ou quand Nice investit sur Ben Arfa, quand l'OM investit sur Balotelli, on sait ce qu'on achète. On sait que le produit va être acide. On sait que le produit va être amer. Ouais, à moins de le cuisiner comme il faut. Et donc, quand on achète Memphis Depay, je maintiens, je dis pas
donc,
que
c'est un problème de cuisinier.
Pour moi, c'est un problème de cuisinier. C'est un problème d'ingrédients. Le poste et la façon dont on l'utilise.
C'est ça, jamais été un joueur de côté pour moi. Depay, est-ce que c'est pas juste une question de coach et d'animation?
Ah, et ça a jamais été un ailier de manière.
Très
ça,
probablement.
Je comprends pas pourquoi les gens sont têtes à le voir comme un ailier.
C'est toujours la même histoire. C'est ce qui est le plus important, c'est le joueur et sa petite volonté et tout ça. Le mec, il a quand même un contrat. Il est grassement payé à Lyon. Déjà, commence par faire le minimum. Mais ça, le problème, c'est que la plupart des joueurs aujourd'hui, le football n'est plus comme ça. Déjà, fais en sorte que le club qui te paye, le club qui t'a acheté, rend lui ce qu'il te donne. Et avant de faire tous tes petits caprices, c'est ta succession de caprices. Je termine par rapport à lui et au produit. Memphis, il a pas coûté non plus si cher que ça.
25. Non, mais le salaire, il faut le payer.
Oui, mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que t'as également d'autres produits aménagés à Lyon. Il y a pas un mec, tu vois, qui se détache le produit phare de la recette, on va dire, parce que ils doivent ménager Fekir, qui a une grosse valeur marchande.
J'aimerais bien voir les ventes de maillots à Lyon quand même. À l'international, non, par exemple. J'aimerais bien savoir si
Nabil Fekir joue.
Oui, mais à l'international.
Non, mais pour le business du club.
En Chine, notamment.
Ils ont également acheté, ils ont d'autres mecs qui doivent mettre en avant, qui doivent ménager. Ils peuvent pas faire de Memphis, la vedette numéro un, le mec, autour de qui on va construire l'équipe, parce qu'ils ont déjà, ils ont d'autres mecs comme ça qui doivent pas abîmer et d'autres susceptibilités à ménager. Et moi, encore, cette gestion des susceptibilités à ménager de ceci, de cela, ça me gonfle un peu, quoi. Fais ton taf, un méga salaire.
Alors, s'il vous plaît.
Bouge ton cul déjà, quoi, tu vois.
Accueillons Isaac. Il est supporter néerlandais. Isaac, bonsoir.
Bonsoir, Gilbert. Bonsoir à tous.
Salut Isaac. Bon, sur Depay, t'as un truc à dire?
Bah oui, j'écoutais ça très attentivement. Et pour moi, je rejoins un peu Daniel. C'est pas une affaire de poste, parce que lorsqu'il a débuté au PSV, il était excellent en ailier gauche et c'était un super joueur. C'est juste une question, on va dire, un peu de mentalité. Et Daniel vient de dire également, je vais le rejoindre là aussi, un truc très intéressant, c'est que à Lyon, c'est pas la vedette. La vedette, c'est Fekir. Et ça, je pense qu'il l'apprécie pas tant que ça, parce que quand on regarde de plus près sa saison dernière et la deuxième partie de saison où il est excellent, bah, si on regarde de plus près, c'est quand Fekir, il est pas là. Quand Fekir, il était blessé pendant la deuxième partie de saison, on a eu un très grand Memphis qui a porté Lyon quasiment à lui tout seul. Et là, finalement, avec les Pays-Bas, bah, Koeman, il est arrivé, il a fait quoi? Il a pas de grand neuf. Il s'est dit, bah, je vais mettre Memphis en numéro 9. Il va y avoir un jeu un peu plus.
Attends, Isaac, Fekir, justement, quand Depay fait sa bonne partie de saison, ça coïncide avec le fait qu'il y a Fekir et qu'il joue à deux devant.
Pas encore. Fekir, il revient un peu vers
Depay, il est très bon quand, il est très bon quand il passe en 4-4 de losange et qu'il joue dans l'axe avec Fekir en soutien.
Oui, là, oui, non, mais.
Surtout là qu'il est fort.
Il y avait aussi sur Mariano, les
aussi, ouais.
Avec Mariano, je joue plus.
Un changement de mentalité. Et c'est ça que j'essaie de.
Moi, je suis complètement d'accord. Moi, je dis pas que Daniel ou que Lionel, un peu plus tôt avait tort. Je dis juste que.
Parce que Lionel disait pareil que Jonathan.
Voilà. Il faut énoncer les faits.
Lionel Charbonnier.
Memphis Depay, Sparta Rotterdam, un joueur le même qu'aujourd'hui. PSV Eindhoven, le même qu'aujourd'hui. Manchester United, le même qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu sais ce que tu prends. Et donc, il faut l'utiliser comme il est possible de le faire jouer et pas inventer quelque chose où tu sais déjà que la formule, elle va pas être
bonne. Oui, mais aux Pays-Bas, c'est un 4-3-3 avec Depay en pointe à Lyon, jamais à cause, j'ai envie de dire, ou grâce à Fekir, il y aura un 4-3-3, parce que Fekir, on le sait, il a besoin de jouer.
Même à deux attaquants avec les Pays-Bas, il est meilleur. Après, les Pays-Bas, c'est comme a dit Daniel, c'est autre chose, il retrouve son pays, il retrouve sa langue.
Là où il a été le meilleur à Lyon, c'est quand il jouait à deux devant,
Oui, à deux devant,
Sortons de Depay, il y a un truc, moi, qui m'a finalement assez étonné, il y avait que deux ou trois joueurs de l'Ajax titulaires.
Ouais, il y avait que deux joueurs de l'Ajax, il y avait De Ligt et Blind. De Ligt et Blind et Silisson qui est formé à l'Ajax aussi, mais non, on parle beaucoup de l'Ajax, mais je le répète, les Pays-Bas, c'est pas que l'Ajax. L'Ajax, c'est le fleuron.
De Jong aussi.
Mais comment?
Ah, il y avait De Jong aussi.
De Jong, pardon.
Trois. trois titulaires au
trois
départ.
Trois titulaires. Mais dans la sélection des 22, il n'y en a pas tant que ça. Il y a Van de Beek. Après, derrière, il y a aussi quelques étrangers à l'Ajax. Hein. Ziyech qui est néerlandais. Enfin, moitié marocain, moitié néerlandais. Mais les Pays-Bas, voilà, il y a des joueurs formés au PSV, il y a Wijnaldum, mais certains formés à Feyenoord, il y en a formés au Willem II, il y en a formés à
Groningen. Oui, c'est pas, ils jouent pas avec le style école Ajax. Hein.
Non, ils jouent avec le style néerlandais.
Ouais. Voilà, exactement.
Isaac, merci beaucoup.
Merci à vous.
Salut, à bientôt. Salut. Alors, dans quelques instants, on va passer au dossier suivant. On parlait de l'équipe de France qui joue demain. Vous voulez rajouter un truc sur Pays-Bas
Allemagne là? Les deux premiers qui sont qualifiés.
Oui, bah ils vont se qualifier les deux là.
Ouais, non, mais c'est fou quand même.
Là, la formule fait que normalement, franchement, pour pas se qualifier, faut le faire exprès. Non,
c'est fou que deux équipes aussi fortes se retrouvent dans le même groupe. Moi, j'ai l'impression que c'était pas possible.
De la Ligue des Nations, l'Allemagne.
Et donc, si les Pays-Bas se qualifient, gagnent la Ligue des Nations, qu'est-ce qui se passe?
Alors là, faut demander à Nico Villas, mais
moi j'ai compris. Parce que si les Pays-Bas, c'est qui gagnent la Ligue des Nations.
Au début, je crois que c'est un match
amical dans leur groupe de qualification.
Non, en fait, je crois que ça n'a rien à voir. C'est si les Pays-Bas ne se qualifient pas via les deux premières places, là, ils ont une chance de se qualifier.
Et donc, s'ils ne se qualifient pas, ça ne libère pas une place dans leur groupe.
Je ne crois pas.
Mon petit Lorto, un dernier mot ou t'as tout dit?
Oui, simplement pour dire qu'il y avait 5 joueurs du Bayern ce soir titulaires, hein. Neuer, ouais. Süle, Kimmich, Gnabry et Goretzka, alors qu'il y en a 3 qui ont quand même été exclus, hein, 3 champions du monde, donc il en restait 5 quand même sur la pelouse ce soir. Et puis j'ai mieux compris aussi ce soir les soucis du Real Madrid de Fred Hermel quand j'ai vu l'état de forme de Toni Kroos, qui est quand même complètement au fond du trou.
Ouais.
Merci David, bonne soirée.
Salut.
Tiens, tout à l'heure j'ai parlé du Togo de Claude Leroy. J'ai pas signalé que le Bénin était sélectionné, enfin était entraîné, pardon, par Dussuyé, l'ancien canois, vous savez, qui a longtemps entraîné en Guinée.
Une sacrée carrière
en
Afrique. Ouais.
Bah il va à la CAN là avec le Bénin, qui est quand même un tout petit pays. Donc bravo à Dussuyé.
Le Bénin, surnom, les écureuils. Les écureuils du Bénin.
Alors,
il est imbattable sur les surnoms des équipes.
Non, pas vrai. Exact.
Il t'en manque un ou deux.
Ah, peut-être quand même, là, comme ça, au débeauté.
On essaye.
Allez, vas-y.
Ah, mais je te donne des durs, hein, pas des faciles. Hein.
Vas-y.
Togo.
Les éperviers.
Ah, bon. Burkina Faso.
Vas-y.
Les étalons.
Oh là là là. Il est injouable.
L'Angola.
Là,
ça.
L'Angola, les palancas négras. Ah. Les antilopes noires.
C'est fort. Fort.
Ah, ouais. Non, mais il est. Sur l'Afrique, il est compliqué.
Il y a une part de chance. J'ai retrouvé le nom du sosie parfait de patineur de jardin, c'est Nathan Chen.
C'est un américain.
Nathan Chen, un américain.
Ouais.
Mais c'est incroyable.
D'accord.
Franchement, moi, j'ai regardé tout l'après-midi ce truc là.
L'après-midi.
Sur Twitter, on me dit.
M'inquiétais.
Plus que l'amant, dans le film L'amant.
Plus, non, ouais. Alors attends, parce que, non, mais surtout. Attends.
C'est mieux, c'est plus valorisé.
Bah oui,
franchement, là.
M'avait dit Hiroshima mon amour.
Gibble sur Twitter nous dit magnifique Jonathan qui réussit 2 quadruples scotch piqué.
Et cet enfoiré d'Aubragnac qui a mis des petits cœurs.
Bah oui, écoute, c'est très beau. Allez, dans quelques instants, on est de retour. On va dire un mot des espoirs. Et puis tout sur l'équipe de France qui joue demain face à l'Islande. Ce sera au Stade de France avec quelques petites surprises dans l'équipe de départ. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, Gilbert Bribois.
Jonathan Macardy est là ce soir, Daniel Riolo et Kevin Diaz après le match Pays-Bas-Allemagne, bien sûr.
Tony Lung, cherchait le nom de l'acteur, évidemment. La star du cinéma en Asie, Tony Lung.
Très bien. Je veux parler de l'équipe de France.
Fesse à l'air, un fringue à la main.
Il manque l'opération que tous les hommes asiatiques font là, dans leur pays. Là.
Quoi? Mais
ils se font des fausses paupières.
Pourquoi tu fais pas ça?
Parce que ça va pas.
Reste comme tu étais très bien.
T'imagines
J'ai le 11 de départ.
T'es une star ou pas?
J'ai le 11 de départ de demain. En sachant qu'il n'y a pas eu vraiment de mise en place ce soir au Stade de France. Donc déjà un peu brouillé les pistes, mais tout de même. Loris dans les buts, Pavard, Varane, Umtiti ou Kimpembe. Kurzawa.
Oui, blessé Umtiti.
Mais il y a incertitude.
Il a fait que 4 matchs quand même depuis. Hein,
exactement. Septembre. Au milieu, Pogba sera titulaire, c'est sûr. Kanté, mais peut-être Sissoko. Voilà. Et devant, il y aura
Giroud.
Retour
du soldat.
Il y aura Giroud, c'est sûr. Il y aura Griezmann, c'est sûr. Et là aussi, peut-être qu'il pourrait y avoir Sissoko si Mbappé joue pas.
Ah bah, remplacer Sissoko par Mbappé, c'est normal. Je trouve que c'est exactement le même profil.
J'étais sûr.
Bah, ils vont vite, tous les deux.
Bah ouais, c'est vrai. Non,
on fait le Draxler,
c'est le même genre c'est le même genre de joueur, hein, Kevin.
Ouais, c'est vrai que c'est des joueurs qui sont similaires.
Mmh. Rapide. Rapide. Percussion.
Alors, est-ce que vous avez dû suivre évidemment la petite polémique du week-end là sur le comportement de Mbappé? Alors, est-ce qu'il a dit ferme ta gueule à Matuidi ou pas?
C'est l'inverse, non?
Pardon?
C'est l'inverse.
Oui, c'est l'inverse. Alors, le truc, c'est Mbappé vous a énervé vendredi ou pas. C'est même arrivé aujourd'hui sur la table de la conférence de presse de l'équipe de France.
Le comportement
général de Kylian Mbappé.
Énervé, non. Faut pas dire qu'il a été qui nous a énervé, mais en fait il a pas franchi la ligne, tu vois, où tu peux dire qu'il t'a énervé. C'est juste que depuis quelques mois, je trouve qu'il a des petites attitudes qui sont un peu comme ça, tu vois, un peu perso, un peu à râler sur ses coéquipiers. Ouais. Et c'est juste, tu vois, c'est juste la mini alerte. Et la mini alerte, elle est pas agaçante.
Non, mais
voilà. Après, il a 20 piges, ouais, c'est normal, tu vois. Tout va très vite pour lui. Ouais,
c'est normal. Il est pas obligatoire.
Non, mais il a 20 piges, tout va très vite pour lui. Mais on n'est pas encore au secret.
Théorie comme quoi il serait carré par Griezmann et Pogba.
C'est des conneries ça.
Moi je suis même étonné en fait de la discussion parce que j'avoue à part les petits gestes effectivement où t'as envie de lui dire, je pense que si t'es son coéquipier tu dis bah arrête de faire ça.
Et quoi. qui se multiplie hein.
C'est vrai.
À Paris, beaucoup.
Ça indéniablement je le vois. Est-ce que ça a des conséquences? Est-ce qu'il y a une petite remise au point? Est-ce que il y a plus que ça?
Il faut pas oublier que j'ai 20 ans. Moi, à 20 ans, je serai à sa place.
Exactement. Ce que tu dis, moi, c'est exactement à ça que j'ai pensé. Alors, c'est pour paraphraser, bien sûr, un illustre ancien journaliste. Mais voilà à quoi j'ai pensé. Je me suis dit, non, Kiki, pas toi, pas après tout ce que tu as fait. C'est-à-dire qu'on l'a vu comme le joueur jeune, mais qui avait quand même la maturité pour pas faire ce genre de choses.
Dénué de défauts.
Voilà. Non, mais Jonathan, pas contre la Moldavie. La Moldavie.
C'est pas une question de Moldavie ou pas, c'est pour la Moldavie. Jouer avec l'équipe de France.
Même une équipe de National 3, ils peuvent leur en coller 3.
Ouais, mais franchement.
C'était faible. Donc s'il marquait pas dans ce match-là, c'était pas la fin du monde.
C'est ce qu'il a fait, c'est pas bien.
Non, mais
ce comportement, c'est pas bien.
Fois.
Mais je t'ai dit, c'est plusieurs
la
fois.
Simulation.
Mais on est encore loin du stade où il faut en faire des débats et où ça doit être polémique.
Est-ce qu'on n'a pas tendance à tout suranalyser, la moindre petite truc, parce que c'est lui.
Quand c'est Cristiano qui est obsédé par marquer un but, on dit que c'est génial, qu'il a l'esprit de compétiteur et tout.
La même chose.
Non, mais là c'est
Cristiano Ronaldo. Il a quand même, tu vois, si on jouait encore à notre époque au flipper au niveau des crédits, il a un petit peu tout ce qu'il veut dans la machine.
Et bien sûr, mais Mbappé aussi a eu
un... Il peut faire beaucoup de
choses. Mais Mbappé aussi a accumulé un petit peu de crédit.
Mbappé
a aussi accumulé un petit peu de crédit.
Ça va.
Le crédit d'avoir été bon en Coupe du Monde, d'avoir gagné une Coupe du Monde, d'avoir été décisif en finale de Coupe du Monde, c'est important.
Qu'il a envie de marquer des buts, qu'il a envie d'être important pour l'équipe de France, on sent que ça lui tient à cœur. Ça, il n'y a aucun problème. Par contre, réclamer.
Faut pas qu'il rentre dans cette salle-là.
Mais réclamer ce ballon.
Là où il en est.
En mi-temps, Jonathan. Réclamer ce ballon à Matuidi. Je pense que t'as joué au foot. On a tout joué au foot. Peu importe le niveau, réclamer ce ballon à Matuidi de façon vraiment très agacée, mais c'est juste impossible.
Erreur
lui qui connaît
jeunesse.
Le foot, Matuidi peut pas lui donner ce ballon.
Ah, tiens, écoutez Didier Deschamps qui s'exprime sur la
Jacques, question. Des fois, quand il peut, il le donne pas toujours à Matuidi.
On y va.
L'attitude, non, il n'y a rien qui m'a déplu de Kylian. Non, non, je leur dis les choses, mais je n'ai rien vu de particulier par rapport à Kylian ou à qui que ce soit dans les intentions et la détermination. Après qu'on n'ait pas tout réussi, même si on a réussi beaucoup de choses. Donc, non, rien à signaler de mon côté.
Bon alors, rien à signaler côté Didier Deschamps. Pour revenir sur la compo, petite précision du soir, là, après enquête de nos envoyés spéciaux. Umtiti, Mbappé, sur Joron, finalement. Donc, si Sissoko joue, ce sera à la place de Kanté.
Mm-hmm.
Demain.
Ouais. Voilà. Pas à la rigueur.
Et beaucoup de matchs, on a avec nous au 32-16 un fan de Sissoko. Il s'appelle Arthur et il est là avec nous. Salut Arthur.
Bonsoir, messieurs.
C'est vrai,
bonsoir.
C'est pour de vrai.
Bah, c'est bien sûr, c'est pour de vrai. Toi, t'aimes bien Sissoko, Arthur.
J'aime beaucoup.
Ouais.
Quand t'es fan de Sissoko, il y a un problème.
Voilà, censuré. Le gars a été censuré par son opérateur téléphonique.
Ouais.
S'il voulait parler de Sissoko, franchement.
Y a quand même... T'imagines si en plus l'opérateur c'est SF1, on va dire que c'est Daniel qui a...
Je n'y suis pour rien.
On va rétablir la liaison.
J'adore le soldat Sissoko.
Bon, qui est de retour. Alors, ça me permet, avant de retrouver Arthur, de vous raconter la petite histoire du jour. Vous avez vu que le journal du dimanche, ce matin, évoque le fait que l'équipe de France a dû faire coudre des deuxième étoiles en plus sur les maillots, parce que ils n'avaient pas assez de maillots et tout. Bon, alors on a un peu enquêté à RMC. Alors, concernant les maillots de match, bien sûr que ce sont des maillots fournis par Nike, l'équipementier, avec la deuxième étoile. En revanche, l'encadrement de l'équipe de France nous a dit... Mais, pendant ce temps-là, on avait quand même du stock. On avait du stock de polo, de parka, de trucs. Là, effectivement, pour pas tout foutre à la poubelle, on a fait rajouter une deuxième étoile. Mais par souci d'économie, nous dit l'équipe de France.
Nike a aussi dit qu'ils avaient prévu des maillots, par exemple, en nombre pour le Brésil, mais pas pour l'équipe de France, parce que c'est pas le marché qui les intéressait le plus et où ils pensaient qu'ils allaient vendre le plus de maillots.
Mmh. Et qu'ils avaient d'autres priorités avec d'autres équipes, d'autres sports.
Ouais. Bon, mais... voilà, c'était la petite histoire du jour de la deuxième étoile.
Je veux bien que cet article ait retenu ton attention dans le JDD, pourquoi pas. Mais il y avait également une interview du sélectionneur.
Mmh. Et donc ?
Qui était vendue en première page, ou je sais plus si c'est dans le chapeau de l'article, comme une interview tactique. Je sais pas, je l'ai lu trois fois, j'ai pas trouvé où ça parlait de jeu.
Ah, c'est pas son style, hein, fais pas le surpris, Daniel, hein.
Mais, alors, justement, avant-hier, je disais que justement c'était son style et que son style est ailleurs et que c'est pas ça. Mais comme là, c'était vendu comme ça et j'avais l'impression que, tiens, il va enfin dire quelque chose, eh bien non, pas du tout.
Ouais.
Puisque tu parles de ça, Kevin,
ça me surprend pas.
Il y a eu une autre interview dans l'équipe il y a quelques jours.
Bah, j'en ai parlé aussi.
Et là, il a dit un truc, peut-être on n'en a pas beaucoup parlé, mais il a dit, à la Coupe du Monde, ce sont les joueurs qui ont voulu continuer
comme après le Pérou.
Comme ça. Voilà. Bah, il dit, ce sont les joueurs qui se sentaient bien en jouant comme ça.
Quel est son plus beau match, il te dit France-Pérou.
Ah ouais, bah, okay, France-Uruguay.
France-Pérou.
Ah ouais, pourtant, l'Uruguay, c'était France-Pérou. Dans le style, tu vois, dans le style, c'était une masterclass.
France-Pérou.
Bon, moi, je vais défendre Didier Deschamps. J'ai vu il y a une dizaine de jours de cela une interview très intéressante de Allegri après un match de la Juve qui Daniel a dû la voir, où il parlait du style de jeu des entraîneurs. Et il disait, aujourd'hui, il y a deux styles. Il y a des entraîneurs qui aiment bien avoir des schémas tactiques défensifs et offensifs et qui réclament, voilà, que les joueurs suivent, si possible, leur schéma. Et il disait, il y avait un autre style dont lui faisait partie Allegri, et je pense clairement que Didier Deschamps aussi, c'est les entraîneurs qui veulent mettre en place un schéma tactique défensif précis que les joueurs doivent suivre pour être en place tactiquement, et qui par contre laissent totale liberté à leurs attaquants pour créer. Voilà exactement le style.
C'est ce que disait Deschamps ce matin dans son interview. Il disait que ses joueurs offensifs, donc globalement il en a trois, il les laisse dans une totale liberté avec quand même obligation de remplacement.
Voilà, exactement. Bah, je pense que voilà, on a bien résumé quel est le style de Deschamps. Après, on peut aimer ou ne pas aimer. Le seul problème, c'est que lorsqu'on se trouve dans un match avec une problématique que les joueurs eux-mêmes n'arrivent pas à résoudre, moi, je pense que la méthode hollandaise ou la méthode Bielsa peut être la meilleure dans le sens après, où les joueurs peuvent aussi avoir autre chose qu'improviser et ils vont avoir leur schéma tactique qui sont prédéfinis et qu'ils savent sur lequel reposer.
Sauf que t'oublies un truc, c'est qu'après, ils te restent le VAR ou un corner.
Ouais, c'est vrai.
Quand ça tourne, ça tourne.
Ou un pénalty.
Oui, souvent, avec VAR.
Contre l'Australie.
Voilà. On a retrouvé Arthur.
Ou en finale.
Oui, c'est bon, il y a un petit bug. Messieurs.
Un petit bug. Bon alors, Sissoko.
Eh ben oui, Sissoko, moi j'apprécie énormément les performances qu'a pu faire Sissoko, que ce soit par le passé et même plus récemment. Sissoko, c'est un joueur, voilà, certes, qui n'est pas incroyable.
À la Coupe du Monde, tu l'as trouvé bon?
Sissoko, moi, je le trouve dans sa débauche d'énergie, dans le goût de l'effort. Je trouve que c'est un joueur qui apporte énormément.
Arrête.
Ne tombe pas dans les pièges, Daniel.
Pourquoi? Quel piège? Je demande s'il a trouvé bon la Coupe du Monde, laissez-le répondre.
Non, mais Sissoko, on est tous d'accord, Daniel. Moi, je suis d'accord avec toi pour dire c'est pas le grand joueur que forcément on va adorer en équipe de France. C'est
un mais moi, je voulais juste savoir si tu l'avais trouvé bon la Coupe du Monde, c'est tout.
Non, mais Sissoko, il a pas joué, les gars.
Ben oui, mais bien sûr, c'est bien. Il voulait que tu tombes dans le piège.
Franchement, Daniel, en plus, Sissoko, c'est pas la pire des arnaques qui en est de bon sur moment.
J'ai toujours dit que moi, je défendais. En fait, j'aime bien rigoler avec ça.
C'est
un soldat et
c'est pas la pire des anomalies qui jouent en bleu.
C'est un mec qui répond très présent, il se bat. Mais
tu rigoles avec Tirzaba, Bavar, je veux bien.
Et puis on parle de Sissoko.
Les uns après les autres. Kevin et Arthur ensuite. Vas-y, Kevin.
Arthur, je pense que si tu aimes Sissoko, tu seras d'accord avec moi. Moi, bien sûr que je préfère un joueur comme Thomas Lemar, par exemple, pour animer un couloir. Mais il faut de constater que ce soit en équipe de France, mais surtout sur j'ai le plaisir de commenter sur RMC Sport la Première Ligue. il est quand même titulaire régulièrement dans l'équipe de Mauricio Pochettino. Donc c'est pas forcément le même style de jeu que Deschamps, mais là aussi il arrive à s'imposer, même si
bon, cette année il a récupéré la place.
Il a récupéré la place, et ça franchement c'est à louer, parce que je peux vous dire que Tottenham, vous allez le voir encore en Ligue des Champions, mais c'est quand même loin d'être une équipe qui joue pas au ballon.
Il permet de faire briller les autres, tout simplement.
C'est sûr.
Ça, de par sa débauche, de par ses replis, je pense que la liberté dont peuvent bénéficier Griezmann, Mbappé et tout.
D'être fan, généralement n'est pas trop fan. Genre, non mais c'est peut-être.
C'est un style. Ah,
tu, bien sûr, mais c'est
tu dois aimer également les films de gladiateurs.
C'est toujours bon d'avoir un joueur comme ça dans son équipe.
Il est peut-être tu sais dans la lutte syndicaliste.
Il a récupéré une place qu'il avait.
Tu as déjà visité.
Chut, fais écouter Arthur.
Non, mais je disais que Sissoko, au final, c'est quand même très, très bien de sa part. Et franchement, il ne fait pas de bruit par rapport à ça. Le mec ne va pas à la Coupe du Monde. Il est rappelé après. Donc forcément, quand tu es un joueur, forcément, tu as un certain ego. Il a fait de grosses performances. Il est là aujourd'hui. C'est voulu. C'est, voilà, c'est normal. Je suis d'accord avec toi, hein, en tout cas. Mais je pense qu'un match comme demain, il peut apporter vraiment cet impact physique.
Et puis, il est important dans un groupe.
On le connaît.
Exactement. Il est important dans un groupe parce qu'il est polyvalent. Bon, il peut dépanner à droite, latéral droit. Il peut jouer milieu droit. Il peut jouer un peu plus bas au milieu. C'est assez important d'avoir un joueur quand c'est tu ça. Pars sur une compétition d'un mois qui peut jouer en moins 2-3 postes.
Et je vais vous dire, ouais. dans un groupe professionnel, dans une sélection,
et en plus,
avoir des joueurs comme Sissoko sur le terrain, avoir des joueurs comme Matuidi, ça rassure.
Et dans le vestiaire,
parce que tu joues en équipe de Martinique, tu joues latéral.
Toi aussi, tu auras besoin d'un costaud avec toi.
Non, mais ça rassure.
T'es prêt à jouer partout.
Bien sûr.
Non, mais en plus, j'ai cru comprendre qu'il était très important dans le groupe, Sissoko, par rapport aux jeunes.
Ça rassure d'avoir des gens sur qui vous savez que vous pouvez compter, sur qui vous savez qu'ils vont être présents avec, mais aussi sans le ballon. Et vraiment, quand on est sur le terrain, avoir des Sissoko, avoir des Matuidi, ça rassure.
Tiens, Arthur, puisque tu as été brillant, je vais t'envoyer un petit cadeau, le DVD du film Chacun pour tous, avec Ahmed Silla, Jean-Pierre Darroussin et donc Moussa Sissoko, c'est cadeau. Salut Arthur.
Ah bah écoute, avec plaisir, merci bien.
Bye bye. Dans quelques instants, on est de retour, un mot sur les espoirs qui ont perdu ce soir, et puis qui vont jouer l'Euro donc au mois de juin. Et puis le reste de l'actu du jour, évidemment, dans l'after. Tiens, si vous êtes supporter d'une des équipes qualifiées pour la CAN, vous avez suivi un peu les matchs ce week-end, n'hésitez pas à nous appeler pour nous en parler, parce qu'il s'est passé plein de trucs sympas. À tout de suite dans l'after.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à Moulin sur la Kéline Diaz, Daniel Ariolo, Jonathan Maccardi. Alors ça me permet de vous dire un mot quand même de notre programme de la semaine, c'est vrai que demain il y a l'équipe de France. Donc demain un after aux alentours de 23h jusqu'à minuit après le match France-Islande. Mardi, attention si vous êtes footballeur amateur, écoutez bien l'after de mardi, parce que quand on est footballeur amateur ou professionnel, on se dit toujours mince, qu'est-ce qu'il faut que je mette comme pompe? Le choix des crampons. Qu'est-ce que j'achète? Quelle marque? Comment? Un truc en plastoc, là, maintenant que font les équipementiers, les pompes en cuir et tout. On aura un podologue avec nous mardi qui va nous expliquer tout ça. Vous allez voir que les pros, ils s'occupent pas forcément très bien de leurs pieds. Hein. Alors que bon, c'est quand même leur outil de travail numéro un, non?
Ouais, bah, moi, honnêtement, j'y attache beaucoup d'importance. Et, c'est vrai que je change régulièrement de chaussures. Bon, alors, aujourd'hui, quand on est plus professionnel, il faut les payer. C'est un peu plus ennuyant, mais c'est vrai que c'est très important, surtout aujourd'hui avec la prolifération des terrains synthétiques. Pas de lamelles, messieurs. Sinon, attention aux croisés.
Voilà, le premier conseil de la semaine. Et puis, notre fameuse thématique, lancée l'autre jour avec Daniel, sur peut-on toujours être supporter d'un club qui est juste là pour faire du pognon, tu vois, et vendre des joueurs, type Monaco, Lille, Bordeaux. Et ben on va également la faire cette semaine. Donc là, je donne rendez-vous à tous les supporters de ces clubs et qu'ils viennent nous expliquer s'ils s'identifient toujours à leur club, s'ils ont toujours la passion comme ils l'avaient quand ils étaient gosses, ou pas. Donc on fera ça cette semaine ensemble, entre autres dossiers... abordé dans l'after. Ah oui, puis autre chose, Netflix se met au foot. Vous avez vu Sunderland, la Juve, Griezmann. On aura avec nous un des
pas
auteurs.
Toujours bien, hein.
Ben justement, on aura avec nous un des auteurs du doc sur Griezmann.
Griezmann est pourri. Sunderland, c'est bien.
Et ben, on va se plonger là-dedans. Pourquoi certains marchent, pourquoi certains marchent pas. Tout le monde à peu près est accro aux séries aujourd'hui. Et pourtant, les séries dans le sport, il y en a quasiment pas. Pourquoi? Comment ça se construit et tout? Il y a un avis sur tout, c'est Kevin.
Je propose à tous les fans de documentaires sportifs, le Ark Knox, chaque année, HBO fait un documentaire sur une équipe de football américain, sur toute leur préparation. L'année dernière, c'était sur les Cleveland Browns. C'était juste sensational.
Ouais, mais là, il faut être branché foot américain, quand même.
Oui, mais... Non. Sachant que Odell Beckham Jr. a signé au...
Ah, des fois,
au Cleveland Browns.
Des fois, dans d'autres sports, très souvent d'ailleurs, en regardant des docs d'autres sports.
Attention, on parle de séries, Daniel. Pas de docs. Parce que des docs, des excellents docs de sport, il y en a, mais des séries.
Là, c'est des séries, des fictions ou des.
Bon, des fois,
ou des séries reportages.
Autour du sport.
Ah, il y en a des biens.
Tu as vu les docs sur la série sur les losers?
Attends, non mais ouais sur Netflix, mais la meilleure série de sport c'est sur le foot américain.
Il y a beaucoup de français là-dedans.
Hein?
Beaucoup de français non?
Friday Night Lights.
Ouais. Friday Night Lights.
Très bien.
Non, enfin il y a pas que des. Y a pas
mais là
des
c'était français. Une série fiction.
Ouais.
On lui parle de reportage de faits réels.
Ouais, même pas forcément.
Bon, il y en a sur un boxeur super connu là. Ah putain, j'ai oublié son nom.
Non, je crois que
on fera ça mercredi.
Sur la même.
Les espoirs. J'aimerais quand même qu'on en dise un mot. Donc première Euro depuis longtemps, depuis une éternité. Donc en juin. Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que il faut absolument gagner ou est-ce que finalement c'est assez anecdotique parce qu'on prépare finalement ces gars-là pour Léa? Quel est votre point de vue? La soirée, ils ont perdu en match amical contre le Danemark 1-0.
Et comme tu le disais tout à l'heure, ça fait tellement longtemps que les espoirs ont rien fait. Là, tu te présentes à l'Euro.
À chaque fois, on pleure parce qu'ils se qualifient pas en disant c'est pas possible.
Là tu te présentes à l'Euro. T'as une super équipe. Regardez le 11 de départ, messieurs, au milieu de terrain, c'est Touzard, Maxime Lopez, Guendouzi, devant, t'as Dembélé, enfin, il y a des bons joueurs de partout. T'arrives en faisant partie, t'es dans les trois favoris. Je pense que c'est important que cette équipe fasse quelque chose, du moins pour la carrière de ces joueurs-là. Est-ce que tous les joueurs qui sont en espoir feront la transition avec Léa? Je ne pense pas. Ça, c'est historique. Historiquement, c'est comme ça. Alors qu'il y a, dans d'autres pays, t'as l'impression qu'il y a une passerelle où les joueurs qui sont très bons avec les espoirs arrivent à alimenter l'équipe première. Et je pense que ça a un rapport. Le rapport, c'est que il faut arriver à multiplier dans la continuité les résultats de tes équipes espoirs pour pouvoir justement former tes joueurs au niveau international. Et nous, je pense qu'il faut commencer par au moins faire bonne figure à cet Euro où t'as réussi à te qualifier et où en plus t'arrives comme étant un des favoris.
Kevin, Daniel, vous êtes d'accord?
Les espoirs, c'est la seule catégorie chez les jeunes où je fais gaffe un peu aux résultats. Les autres compètes peuvent être très intéressantes à regarder. Mais à la limite que ça se plante ou que ça marche et tout, c'est pas révélateur de grand chose.
La différence de densité physique est trop importante.
Sur la suite, exactement, sur la suite des carrières à donner. Les espoirs, allez, quand t'es champion du monde chez Léa un an avant, qui se plante à l'Euro ou pas, au final tout le monde s'en foutra globalement. C'est simplement si ça marche que tu regarderas et que tu seras content. Les espoirs, ça marche si l'aventure elle est belle, et si elle est belle, c'est qu'elle est menée par un homme, donc le sélectionneur, et une fédération qui disent OK les gars, les espoirs c'est important. Parce que sinon, le jeune qui est en sélection espoir, la plupart du temps, il est déjà pro dans son club. Souvent, il y en a la moitié qui estiment déjà qu'ils pourraient jouer chez Léa, ou en tout cas, ils sont pas loin et ils savent que le seul objectif pour eux de toute façon c'est d'être chez Léa, parce que les espoirs au fond, qu'est-ce que ça va leur apporter? Pas grand-chose. Donc, ça leur apportera une belle aventure dont ils se souviendront. D'ailleurs, si tu parles avec ceux de 88, tous les mecs qui sont, pour la plupart, eux tous devenus de très bons joueurs hein, ensuite. Tout ce dont ils se souviennent, c'est on était une bande de potes, on a vécu une super aventure ensemble.
Non, mais c'est un problème.
C'était une belle expérience. Donc si le sélectionneur, à l'époque c'était Marc Bourrier, là aujourd'hui c'est Ripoll, s'il arrive à dire aux mecs, vous voulez pas qu'on vive une belle aventure ensemble, vous voulez pas qu'on y aille, s'il crée le groupe en prenant soin à ce qu'il fait, et si la Fédé dit on veut un résultat avec les espoirs et que tout le monde va dans le même sens. Daniel, bon, bah ok, ils peuvent vivre le truc.
Regarde,
qui gagne, qui perd au final, c'est
pas. Non mais
pas,
Daniel, regarde, Italie,
peu,
Espagne, Allemagne, par exemple, pour citer que ces trois-là, il y a une continuité dans le résultat dans les sélections espoirs, et tous les joueurs finissent par se retrouver en étant des quatre dans les A. Et je pense que ça, il faut l'instaurer en France.
Attends, je sais, mais souvent c'est pas signe. T'as une bonne équipe espoir, t'es bon ensuite. C'est pas
non,
évident.
Mais ça, non, mais sur le long terme, sur le train, sur le moyen terme, ça assure de la qualité de convivialité internationale.
Ça les habitue à gagner, ça les habitue au maillot bleu.
Exactement.
Ça les met dans une logique. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais ça.
Mais culturellement, là, pas encore, ça.
Ça va être décidé par les mecs qui vont mener l'aventure, qui vont leur dire, les gars, c'est dès maintenant, vous préparez votre chemin vers Léa.
Par la Fédé aussi, ça doit, c'est que la Fédé. La Fédé n'accorde pas autant d'espoir, que les autres Fédé. Et c'est grave.
Je vais comparer par rapport aux espoirs portugais, par exemple, qui font souvent de beaux euros ou espoirs néerlandais, voire aux danois, que je connais pas particulièrement, mais il y a un problème en France, c'est que les espoirs français sont quasiment tous titulaires en Ligue 1.
Exactement.
Et ça veut dire que financièrement, déjà, pour eux, c'est presque prendre un risque de jouer.
Bah oui, parce que c'est en été.
Parce que c'est en été, ils peuvent se blesser. Ouais, je pensais à Ndombele. On disait qu'Ndombele va faire l'Euro espoir. Oh là, je pense que son agent, il est pas trop d'accord.
Compliqué, ouais.
Mais par exemple, les espoirs danois, les portugais, les suédois, ils sont inconnus de l'Europe. Donc c'est vraiment la compétition qui peut les faire exploser, alors que les Français, ils auront beaucoup plus d'expérience.
Ils ont pas besoin de cette exposition là. Ils sont déjà tous dans le business, ils veulent déjà tous être dans des grands clubs, ils pensent
déjà ça. D'ailleurs, Mbappé potentiellement pourrait faire l'Euro-Espoir, et il ne le fera jamais.
Voilà.
Oui, ça non.
Ça c'est une donnée, je pense, du problème qui fait que voilà peut-être pourquoi la sélection française espoir a un peu de mal.
Non, mais là, faut peut-être regarder leur situation contractuelle. S'il y en a qui veulent effectivement partir ou qui ont des offres et tout, Ndombele par exemple. Ndombele, Olas, ça arrête pas de répéter. Ndombele, on peut le vendre.
Après, ouais, mais après,
je suis pas sûr qu'Olas il soit vraiment d'accord. Alors, il pourra pas dire non parce que on peut pas refuser une sélection. Mais
après, quand tu regardes le 11 des espoirs, à part Dembélé qui joue à Lyon et Guendouzi qui joue à Arsenal. Et ben allez, Maxime Lopez qui joue à Marseille, c'est des joueurs qui jouent dans des clubs intermédiaires.
Bamba,
ouais, mais c'est des joueurs qui jouent quand même dans des clubs intermédiaires.
Le gardien, il est titulaire à Nîmes.
Non, mais c'est des joueurs qui jouent quand même dans des clubs intermédiaires et tu sais que quand tu vas faire l'Euro Espoir, il va avoir pas mal de recruteurs de grands clubs qui sont pas forcément au rendez-vous tous les week-ends sur les stades de Ligue 1 aussi.
S'ils sont fichés, sont déjà fichés depuis longtemps. Et mais avec tout le monde en Europe, tu crois pas qu'un mec qui joue en Ligue 1 peu importe où, ils savent déjà
fiché, tout de lui. Repéré.
Ouais, c'est mieux ouais.
Ouais, ça va.
Dans tous nos jours hein.
Ils sont dans des fiches et dans les petits papiers des mecs, ils sont déjà tous super connus les gars.
Voilà pour les espoirs. Je voulais également qu'on dise un mot de la Belgique les gars.
La Belgique, j'ai l'impression qu'ils jouent tous les jours.
Bah non.
Ils se reposent pas les Belges, ils ont pas joué en même temps
que jeudi.
Soir. Ils ont joué jeudi dernier. Et là ce soir ils jouaient à Chypre. Alors ils ont bouclé l'affaire en 2-2 hein, puisqu'ils ont marqué à la 10e et à la 18e. Terminé 2-0, Hazard et Batshuayi. Et derrière plus rien. Voilà.
Sérieux.
Donc,
Voilà. Tu voulais qu'il fasse plus, tu voulais qu'il mette une pile, tu voulais.
Non, mais je sais pas, mais comme on les présente comme numéro 1 au classement FIFA, quand les enfants, la Belgique.
Ouais. Ils présentent qu'ils vont être à l'Euro et que, comme on le disait tout à l'heure, ils seront parmi les favoris au même titre qu'un tas d'équipes.
Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont déjà, ce qui a fait qu'à mon sens, ils sont un peu au-dessus des autres avec la France, c'est que, en plus d'être très forts déjà maintenant à l'instant T, ils ont une très forte marge de progression quand tu regardes l'âge et l'expérience des joueurs.
Et puis une dernière info que je voulais vous donner importante, vous jurez si elle est importante ou pas, moi je trouve que c'est quand même assez hallucinant. Les arguments avancés par Cardiff pour ne pas payer le transfert de Salah. Alors en fait le club de Cardiff, c'est une révélation aujourd'hui du Daily Telegraph, le club de Cardiff explique que le contrat signé avec Salah a été rejeté par la Première Ligue et que les conditions de son officialisation n'étaient donc pas remplies au moment du crash de l'avion. Donc ils disent, bah, nous, vu que le contrat n'a pas été homologué par la Première Ligue, pour nous c'est nul et non avenu, on ne doit rien payer à personne. Il n'y a pas de contrat. Voilà ce que dit Cardiff, révélation aujourd'hui en Angleterre.
Franchement, moi cette affaire-là, c'est pas beau. J'ai même pas envie d'en parler. Moi,
c'est pas beau.
Moi, ça me dérange.
Ça met mal à l'aise.
Bah oui, c'est très dérangeant.
De toute façon, à partir du moment où le crash est intervenu, il y a eu une parenthèse. Logique pour dire le deuil, il faut dire on n'en parle pas, mais dès les premières minutes on a senti que une fois le deuil passé ça exploserait et que cette histoire de transfert, les histoires de pognon reviendraient pour régler cette affaire là et là franchement alors me prononcer là-dessus qui est un salaud, qui l'est pas, qui profite,
il devrait régler ça en sous-marin sans communiquer dessus ou par là, au moins complètement... par respect pour la famille quoi.
Allez, quelques réactions sur le hashtag RMC Live et sur Direct Studio. J'ai Perucci qui lui dit « Ah, les espoirs, en vrai, c'est comme les féminines, tout le monde s'en cogne. » Bon, ben, lui, il a un avis clair.
Non, la Coupe du Monde féminine, c'est Léa, quoi. On s'en cognera pas du tout. En revanche, tu vois, par exemple, tu me demandes, dans les événements au mois de juin, tu vas suivre plus les nanas ou les espoirs? Je vais suivre les nanas.
Ou la Coupe d'Afrique, parce qu'il y a la Coupe d'Afrique aussi en juin.
La Copa América aussi. Et la Copa América, au Brésil en plus.
Et la Copa América. La Copa América, c'est plus dur parce que les matchs sont à chaque fois à 2h du mat ou 3h du mat.
Mais un petit réveil, ça passe tout seul.
Non, mais je parlais entre les deux, entre les deux équipes de la
Fédé. Tour de table, vous avez, je vous donne les compètes, hein. Euro Espoir, Coupe du Monde Féminine, Cannes, Copa América. Bon, excuse-moi pour la Gold Cup, hein. D'ailleurs, je sais même pas si c'est cette année la Gold Cup ou l'année prochaine. Quel est votre tiercé? Dans l'ordre.
Ouais, Gilbert, dans la mesure
où.
Dans la mesure où dimanche, dans la nuit de dimanche,
alors,
je me réveille.
Dans l'ordre. Les nanas, Copa América et Cannes. Mais pas dans l'ordre, je sais pas. Après,
c'est évident
ce qui s'y passe.
Copa, espoir, Cannes. Et dans la mesure où.
Ah non, pas les
regarde,
espoirs,
je t'explique un truc. Non. Dans la mesure où dimanche, comme tous les dimanches, je me réveille à 3h du matin pour voir RMC Sport 4 et voir l'UFC, c'est pas dur de mettre un réveil et de regarder un événement sportif.
Ce qui m'intéresse en premier, c'est l'élite. C'est pas.
Ah, les espoirs, il y a Maxime Lopez.
Ah non, ok, je sais pas, mais fais-toi, tu peux pas faire un doc sur lui puis tu te le passes en boucle
sur Netflix.
Comment on peut kiffer Maxi Lopez?
Parce que c'est un bon joueur.
Alors, ça va.
C'est un bon joueur. C'est un bon joueur. C'est une anomalie qui, c'est beau qu'il arrive avec un tel physique à être, être performant au niveau professionnel. Moi, je trouve ça bien.
Bah, bref, moi, pas dans l'ordre. Donc, Cannes, Copa et les filles. Après,
Cannes devant la Copa.
Non, ah, non, je te dis pas dans l'ordre.
J'ai pas entendu,
En fonction de ce qui se passe et de l'intérêt
de la veille.
Moi, je dirais, Cannes parce que j'ai des amis qui vont la faire, la Copa et les filles.
Ouais, moi, j'ai même
les espoirs, quoi.
Cannes Copa féminine. Ouais. Tiens, on va conclure avec la Belgique. Et notre ami Gauvin, qui était déjà avec nous l'autre jour, là, supporter de la Belgique.
Dani.
Salut Gauvin,
salut,
ça
Dani.
Va
ouais, bonjour à tous, ça va.
Ouais, t'as regardé le match?
Ouais, enfin, faut pas appeler ça un match, parce que c'est très, 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 très faible à notre groupe. Et je pense qu'on est à la limite du ridicule.
Ah, carrément?
Ah ouais, non, franchement, c'est une catastrophe. Quand on dit que la Chypre est l'adversaire le plus redoutable avec la Russie, voilà,
ah ben la Russie, c'est pas mal, oh. La Russie, ils ont fait une bonne Coupe du Monde.
Ouais, non, c'était catastrophique. Franchement, c'est de plus en plus faible. Le nivellement vers le bas, je pense que Gianni Infantino, il y en est quand même pour beaucoup, hein. Si on veut commencer à mettre une quarantaine d'équipes en Coupe du Monde, bah, à la rigueur, on va regarder la Ligue 2, on va regarder le CFA, on va regarder le National, et on va continuer le nivellement vers le bas, comme dit si bien Daniel, depuis maintenant quelques semaines. Je suis 100% d'accord avec lui.
Donc là, dans le groupe de la Belgique et la Russie, t'as aussi le Kazakhstan qui s'est pris une douille par les Russes aujourd'hui. T'as Chypre, l'Écosse et Saint-Marin.
Oui.
Oh, mais c'est catastrophique. Hein. Franchement, allez, c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule.
Ils jouent pas numéro 10 avec l'Écosse, McTominay, en plus.
On est vraiment en train de tuer le football. Là, je sais pas trop à quoi joue la FIFA, mais c'est une catastrophe.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on regrette un peu notre Ligue des Nations. Hein. Non. On regrette un peu la Ligue des Nations où il y avait quand même de beaux matchs.
Ouais, bah comme c'était par niveau, forcément. Okay,
pour te dire la vérité, la Ligue des Nations, j'ai oublié, c'est à peine si je me souviens quand elle a commencé, quand elle a fini, ce qu'il y avait dedans, quoi.
Elle a pas tardé. Elle a fini en juin.
On avait l'Allemagne et les Pays-Bas dans le groupe, nous.
Eh, hey, mais dis donc, la Ligue des Nations, mois de juin, tu as pas dit dans les compètes aussi.
Oui, la finale de la Ligue des Nations. Sans la France.
Demi-finale.
Demi-finale, finale.
Bah, c'est une compète.
Bah, il y a la Belgique d'ailleurs, non? Je sais plus.
Non.
Et la CAN, il n'y a pas la France non plus. Non, et la Coupe América, il n'y a pas la CAN et la France non plus, tu les as bien cités.
C'est vrai.
Ouais. Il est bon,
lui. T'as raison. Non, un mois de juin, on va être débordé.
Mais c'est vrai.
Bon, Gauvin, je comprends ton coup de gueule. Mais bon, écoute.
Ah ouais, franchement, c'est.
Faut que tout le monde puisse jouer au football, tu vois, Gauvin, même au Kazakhstan.
Est-ce que c'était mieux que la Jupiler
League? Est-ce que tu préférais? Tu préfères David Goffin ou Danny Beaufin?
Non, je préfère comme David Goffin, mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment, allez, j'ai regardé le match, il n'y a pas eu 4 passes réussies de la Chypre, quoi. Franchement, c'est d'un niveau.
Moldavie, c'était
même
niveau national.
Alors qu'avant, ils avaient encore un fameux public, le public.
Même pas, méchant avec la nationale.
Et Goffin, c'est drôle, non?
Gauvin, écoute, ce coup de gueule restera. Merci à toi, en tout cas, de nous avoir fait partager tout ça ce soir.
Donc,
salut.
En Belgique, il y a beaucoup de noms qui terminent par fin.
Lesquels?
La Coupe de la Ligue des Nations, les demi-finales, c'est Portugal-Suisse et Pays-Bas-Angleterre.
Mmh. Eh ben, ça vaut, non?
C'est pas mal.
Je préfère la carte. Pas dans ton tiercé.
C'est fini pour ce soir. Kevin, à la prochaine. Un de ces quatre. Peut-être bientôt à la Gold Cup.
À demain, après Francis.
Demain soir, on sera là avec Jérôme Bretagne, tiens, qui sera là demain soir. J'ai dit équipe de France, du coup, je bosse le lundi. Jérôme.
Oui, c'est normal.
Francis Land demain soir, bien sûr, je l'attends. Bonne soirée. Et à très vite, et bonne nuit à tous.
RMC, l'After Foot.